sont faits ici. C'est sérieux et en même temps, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Si on se prend trop au sérieux, on se donne trop d'importance. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir relativiser la pratique, la manière de pratiquer. Donc, je ne sais pas si tout le monde est là, mais je crois que oui. Je vais en tout cas commencer. Et donc, on a cette opportunité de pouvoir vous présenter quelques thèmes le soir qui ont trait à la méditation, à la pratique, au déroulement de la méditation, au processus, pouvoir véritablement comprendre déjà intellectuellement, on va dire, au moyen de la réflexion. C'est déjà absolument extraordinaire de pouvoir avoir une idée, une notion. Et puis ensuite, la mise en pratique nous permet de pouvoir découvrir cette dimension plus intuitive. Intuitive qui n'est pas basée dans les concepts. Donc lorsque la pleine conscience est présente, je crois que c'est vraiment important de le réaliser, c'est ce qu'on cultive d'instant en instant, cette qualité de pleine conscience, on peut l'appeler aussi présence attentive, mindfulness. Il y a la reconnaissance de l'expérience présente, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, l'expérience présente. Et la capacité de discerner ce qu'est l'expérience présente. Donc il y a deux aspects là. Il y a reconnaître ce qui est, et puis cette dimension de discernement, lucidité, clarté, qu'on nomme ici la sagesse, sagesse intuitive. Percevoir clairement ce qui est quoi. Une sensation, un son, une pensée, une émotion, une image mentale, un goût, une saveur, et ainsi de suite. Donc, il s'agit vraiment d'une simple prise en compte des expériences qui se révèlent d'instant en instant et naturellement d'un déroulement. Donc, ce n'est pas obtenir un état particulier, ça c'est très important, mais bien de découvrir un processus. Un processus qui est un déroulement d'instant en instant. Nous sommes un processus naturel de vie dynamique, changeant à chaque instant. Et ceci, lorsqu'on commence à pouvoir goûter à l'expérience présente, eh bien, on va pouvoir s'en rendre compte de manière extrêmement immédiate, vraiment, d'instant en instant. Donc, une des premières réalisation, si on veut, ou prise de conscience, c'est vraiment important de pouvoir avoir la notion que nous ne sommes pas ici pour obtenir quelque chose de particulier. Il ne s'agit pas du tout d'obtenir quoi que ce soit, mais de reconnaître. Et cette dimension de liberté, eh bien, elle va provenir de la manière d'être en lien pour y voir clair. Ce terme de vipassana, voir clairement les choses comme elles sont. Donc c'est une perspective qui est différente de mode habituel, qui est de vouloir pour vouloir obtenir, vouloir quelque chose. Et donc ça change notre posture. Ça va vraiment changer quelque part la position en tant que méditant, en tant que personne qui va s'engager dans un processus. Vous voyez, il y a une façon de pouvoir là, quelque part, prendre ceci en considération, puis ensuite, il y a l'application. Donc, ce point-là est essentiel. Et un autre point essentiel que je vais vous partager, qui est assez sympa d'ailleurs, c'est que la nature de la conscience, ou la nature de l'esprit, hein, esprit-conscience ici, c'est équivalent, hein, donc ne cherchez pas à dire qu'est-ce que ça veut dire ce terme. Voilà, la conscience, le fait d'être conscient, l'esprit. La nature de la conscience est dépourvue de caractéristiques particulières. Donc la nature de l'esprit, de la conscience, n'a pas de caractéristiques particulières. Donc elle prend l'apparence des états mentaux passagers. Et ça, c'est vraiment un point absolument essentiel, parce que sinon, on ne pourrait pas cheminer vers la liberté. Si vraiment il y avait des états mentaux qui seraient inhérents, si vous voulez, à la conscience elle-même, eh bien, à ce moment-là, il n'y aurait pas un processus de possibilité de libération. Et je vais prendre un exemple. C'est généralement l'exemple que prennent les enseignements et les maîtres traditionnels. En tout cas, mon maître tibétain, c'est comme ça qu'il le décrit. On a un prisme. Un prisme. Le prisme, il est incolore. Vous êtes d'accord ? C'est un transparent. Et il prend à chaque fois la couleur du support sur lequel on le pose. Bleu, rouge, d'accord ? Il apparaît rouge sur un support rouge, il peut apparaître bleu si on avait un, je l'ai oublié là, on en avait un. Je dis, ah, faut que je le prenne, je l'ai oublié, voilà. Donc, il apparaîtrait rouge, il apparaîtrait bleu, et ainsi de suite, il prend la couleur. Mais lui-même ne change pas de couleur, vous êtes d'accord ? On l'enlève, voilà, il est transparent. Donc, ce prisme ne changera jamais de couleur. La nature de la conscience, rien n'est collant. Rien ne peut, quelque part, adhérer, si vous voulez, à cette dimension de la conscience. Ok ? C'est assez clair, ça ? Tant mieux. Donc, de même, l'esprit, la conscience, peut être teinté du désir, teinté de l'aversion, teinté de doute, de torpeur. Mais lui-même, dans sa nature, il peut être teinté, mais il n'est pas altéré. C'est un peu comme un miroir. Vous êtes en face du miroir, une fois que vous avez quitté le miroir, ben, le miroir, il ne va pas garder votre image. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est exactement la même chose. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a rien à obtenir puisqu'il est naturellement déjà libre. Puisque rien n'adhère, il est libre en nature. Et c'est ceci qui est décrit. Donc, ce qui l'entrave ou ce qui le voile, c'est tout à fait juste de parler de voile, dans le sens d'un voile, ce sont les états mentaux qui, naturellement, vont temporairement, au moment où ils sont présents, quand on ne les perçoit pas pour ce qu'ils sont, vont naturellement affecter la nature, mais temporairement. Et je vais bien sûr décrire un petit peu plus ceci. Donc ceci, le Bodhisattva, hein, quand on parle du Bodhisattva, c'est le futur Bouddha, avant qu'il atteigne le plein éveil, il a naturellement ici compris quelque chose d'essentiel. D'essentiel que nous pouvons aussi comprendre pour nous-mêmes, dans notre propre nature. C'était un être humain, comme j'ai pu le dire, et donc il a perçu que par moment, il était soumis, conditionné, hein, par ses forces, ses énergies. Et ses forces et ses énergies, naturellement, la colère, l'aversion, le tourment, la torpeur, la léthargie, peuvent affecter temporairement l'esprit. Donc, il a perçu que ces aspects troublants de l'esprit, sous toutes ses formes, étaient quelque part en lui-même. Alors que nous-mêmes, nous avons cette tendance à percevoir ceci comme des choses qui sont à l'extérieur. Le fait même de chosifier, voyez ? Et ça va naturellement être un petit peu compliqué parce qu'on est porté vers l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est l'esprit lui-même qu'il s'agit de contempler, qu'il s'agit de vraiment, quelque part, explorer. Donc on appelle ceci la personnification de tout ce qui n'allait pas pour le Bodhisattva, s'intitule Mara. Vous avez déjà entendu parler de Mara ? Voilà, Mara c'est vraiment quelque part la tentation. C'est la personnification vraiment qui fait qu'il y a cette dimension où voilà, il y a la tentation, le trouble. Et Mara, eh bien, nous met dans un état de soumission. On est tout à fait séduit lorsque Mara est présent, ou pas séduit du tout lorsqu'il y a de l'aversion. Et donc, ce Mara peut prendre plusieurs aspects, mais c'est extraordinaire de voir que toutes ces formes-là peuvent apparaître et disparaître au contact de l'esprit lui-même. Donc l'histoire dit que quand il était sous l'arbre de la Bodhi, un des derniers troubles qu'il a eu, c'était le doute. Est-ce que vraiment je vais arriver à rester, à demeurer présent, contemplant la nature de l'esprit? Et il est dit qu'il prend quelque part la terre à témoin. Vous voyez ceci? C'est ça, prendre la terre à témoin. Il touche la terre comme témoin pour dire j'ai quelque part ma propre autorité, ma propre capacité de pouvoir quelque part atteindre, éclairer mon esprit pour atteindre cette dimension de la nature de l'esprit qui est libre et ne pas être entravé par les forces de Mara. Et donc bien sûr ceci est imagé, et ça donne une bonne description. Et il est dit que quelque part cet aspirant Bouddha, la dernière phrase qu'il a eue avant quelque part d'avoir cette dimension de compréhension profonde, hein, parce que voilà, c'est la compréhension profonde, il dit je te reconnais Mara, cette fois tu ne mourras pas, je te reconnais le doute, je te reconnais la peur, je te reconnais le désir, je te reconnais la colère, je te reconnais. Donc c'est vraiment la dimension de la prise de conscience qui a un impact immense sur notre être. Donc vous pouvez, par moment, vraiment, c'est pas du tout un slogan, hein, mais quelque part, avoir la force, il y a vraiment une fermeté, une stabilité de l'esprit, et une certaine capacité de pouvoir rester, demeurer là, présent. Un des paramis, c'est la détermination. Une certaine détermination à pouvoir non pas céder, dans le sens de abandonner, mais de demeurer, de dire, ok, il y a l'effort de Mara, l'esprit troublé, mais il y a aussi cette capacité de reconnaître ce qui est là. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe ? Mara s'évanouit. Donc je suis sûre que vous avez certainement pu explorer ceci par moment. Et c'est chouette d'avoir quelque part un exemple tellement parlant qui nous aide à y voir un petit peu plus clair. Donc, à un moment donné, on comprend bien que c'est dans notre propre conscience, dans notre propre esprit, que tout se joue. L'enjeu est là. Il n'est pas ailleurs. L'enjeu est là. Le défi aussi est là, en nous-mêmes. Mais il y a une certaine disposition qui fait qu'on peut, à un moment donné, trouver l'autonomie, c'est-à-dire la confiance. Justement, la confiance de ne pas dépendre, de ne pas être conditionné, de ne pas être limité par ces impulsions, ces tendances, ces schémas qui sont tout à fait présents lorsqu'on n'est pas présent et qui naturellement rend notre esprit instable et qu'on est soumis face aux attaques, aux forces diverses et variées. Donc les états mentaux peuvent être extrêmement sympathiques. On a beaucoup d'états mentaux. Il y en a qui sont absolument agréables, la joie, le calme, la paix, la sérénité, l'équanimité, l'énergie, l'investigation. Donc, on les appelle des facteurs mentaux, qui sont les facteurs d'éveil. Donc, qui sont des ressources pour nous et qu'on a à disposition. Et il y a des états mentaux qui sont un petit peu moins sympas, qui naturellement sont ceux qui nous troublent, qui voilent, justement, qui portent quelque part une dimension d'être accablé ou sentir qu'on est impuissant, qu'on ne va jamais y arriver. Et donc, on a naturellement différents types d'états mentaux qui vont être présents dans notre propre conscience. Et je vais parler ce soir de 5 types d'états mentaux qui sont souvent regroupés dans l'enseignement, qui s'intitule Nivarana, qui est un terme pali, qui signifie quelque part empêchement. Empêchement d'y voir clair, voile, obscurcissement, trouble, tourment. Donc ces troubles, ils ne sont que momentanés. C'est vraiment important d'entendre que, à nouveau, ils ne sont jamais présents pour toujours. Et je vais les nommer rapidement et ensuite parler un petit peu de chacun. Il y a tout d'abord ce qu'on nomme Kamachanda, qui est le désir sensuel, ce désir qui est troublant lorsqu'il y a un certain agrippement, attachement. Ensuite, le deuxième, c'est tout ce qui s'intitule l'aversion, et ça a beaucoup de formes, cette aversion. Aversion, c'est vraiment un terme tout à fait général. Mais on peut bien sûr parler de la colère, et puis d'autres types dont je parlerai plus tard. Puis ensuite, le troisième, c'est quelque part la léthargie, la torpeur. Torpeur qui s'intitule Tinamida. La colère, c'est Vyapada. Et puis ensuite, il y a l'agitation. L'agitation, l'inquiétude. Et ça, ça s'appelle Uddacha Kukucha. Agitation et inquiétude, anxiété. Et finalement, le doute. Donc, on a toutes ces belles compositions d'états qui peuvent troubler. Et naturellement, que je pense que vous les connaissez un petit peu, ces états. Voilà, parce que moi, je les connais. Hein. Donc, voilà, c'est pas du tout personnel. Hein. C'est dans la condition humaine, il se fait que par moment, on est effectivement quelque part empli de ces différents types. Et c'est la rencontre avec ces expériences, avec ces états mentaux, qui est une part importante de la pratique méditative. Donc vous voyez, la notion de croire que ce n'est pas juste, ou qu'on ne fait pas bien, que c'est très personnel, tout ça, ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, par moment, il y a dans cet être une certaine composition, et souvent on peut dire que quelque part il y a une attaque multiple. On les repère, il y en a un, puis tout à coup il y en a un autre, et puis enfin par un autre, puis c'est beau, oh là là. On est attaqué de tous les côtés, c'est exactement ça. C'est quelque part on a toutes les forces qui viennent, et puis on ne sait plus où on en est, on ne sait plus si c'est de l'agitation, du doute, la torpeur, la colère, mais enfin c'est tout mélangé, et on est bien emprunté. Mais la rencontre avec ces expériences est là, et c'est important de comprendre que dans le cheminement de Vipassana, il ne s'agit pas d'écarter ces états mentaux, mais de les rencontrer. Si on pratiquait la concentration, il y aurait une autre attitude. Puisque pour la concentration, on resterait clairement positionné pour percevoir un type d'expérience, un objet, et naturellement, même pas repoussé, c'est que simplement, comme on est tellement focalisé sur un objet, bah, voilà, les autres sont mis à distance. Donc ça, c'est très important de pouvoir s'en rendre compte. La différence entre la concentration dans Vipassana, on inclut tout, et ces états-là sont absolument essentiels à rencontrer. Donc le désir sensoriel, c'est une réaction conditionnée à ce que nous trouvons plaisant. Toute expérience plaisante est une expérience plaisante. D'accord ? S'il y a une réaction conditionnée, c'est quelque part qu'il y a un agrippement, un attachement, une saisie à vouloir reproduire une expérience qui ne serait plus là, quel que soit le contexte. Où on court après le plaisir. Vous avez remarqué ça? C'est extraordinaire. Combien on se voit quelque part dans ce processus, mais de le voir à l'œuvre. C'est génial de le voir à l'œuvre. Et on me disait toujours, mais il faut voir plutôt que de ne pas vouloir. J'adorais cette phrase. Il faut voir plutôt que de ne pas vouloir. C'est une autre attitude, vous êtes d'accord? C'est un rapport qui va naturellement être un rapport de curiosité, non pas courir après et quelque part pas vouloir ou vouloir reproduire et vraiment être pris dedans. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi à midi, là, quand je suis arrivée, tout à coup, dessert. Puis de loin, là, c'était tellement joli, les couleurs, orange, abricot, je me suis vraiment régalé au niveau de l'aspect plaisant visuel. Et puis alors, je ne parle pas de la saveur, pour moi. Après, chacun, on est tous différents. Mais c'est tellement intéressant de se dire, waouh, il y en avait une, et on avait droit à deux bouchées d'abricot. Quelle merveille! Donc voilà, c'est extraordinaire, cette petite expérience. On peut complètement passer à côté. Et puis, waouh, la gobée, la vallée et tout, dire, oh, c'est plaisant. Et puis voilà, il ne s'est rien passé du tout au niveau méditatif. Alors qu'on aurait pu vivre ceci de façon complètement présente, vivre ceci, percevoir comment ça se passe, comment il y a cette exploration de désirer le dessert. Alors j'ai dû attendre, hein, voilà, j'ai mangé mon plat. Et puis de voir ce qui se passait, puis d'être là, puis de revenir, puis de regarder à nouveau, dire, oh waouh, c'est super. Se réjouir de pouvoir avoir un petit goût de saveur. Et puis, ceci, c'est l'expérience méditative. Et puis ensuite, une fois que c'est fini, ben voilà, c'est... Voilà, non, c'est fini. Ok. Bon, ben, il n'y a pas une troisième ou une quatrième, non? D'ailleurs, je connais quelqu'un qui a été ouvert le frigo à 4 heures. Il y en a plus, il me dit. Je ne vais pas dire. Donc c'est absolument génial de pouvoir voir comment on est tellement semblable. Et comme c'est magnifique de pouvoir le mettre. Nos compositions, quelque part, elle est tellement semblable les uns aux autres. Et donc, on a aussi cette expérience de désir en lien avec la méditation. Si on a été en retraite, et nous tous avons été en retraite à un moment donné, sauf une personne, il y a eu un moment dans mon retraite où c'était waouh, juste comme on l'aime. Vraiment, mais juste parfait. Quoi. Le calme, tout qu'il a fait. Et on essaye de reproduire ceci. Voilà. Le désir, retrouver cette expérience extraordinaire qu'on a eue dans le monde. Et là, il y a vraiment quelque part une prise en compte. De vouloir reproduire une expérience, et le lieu de la méditation, c'est de reconnaître le désir. C'est de vraiment reconnaître l'état mental lui-même, reconnaître le désir lui-même. Pas tant l'objet du désir, ou retrouver l'expérience. Vous voyez, c'est ça qui est tellement intéressant. C'est qu'on est perdu dans le fait de vouloir l'objet. Le désir de l'objet, quel qu'il soit. On le met encore 10 000, hein. Mais ça peut être vraiment très parlant, ça. C'est « Ah, quelle expérience, l'expérience, j'aimerais la retrouver. » Et en réalité, de pouvoir rester au contact et de percevoir le désir lui-même, c'est-à-dire l'état mental qui est présent, le prendre compte, prendre conscience du désir, percevoir son impact. Et qu'à un moment donné, quand on est présent au désir, on soit la prise de conscience, la pleine conscience, à cette extraordinaire dimension de sagesse qui est inclus dans cette pleine conscience, qui fait qu'il n'y a pas le désir du désir du désir, mais qu'il y a la présence claire et que tout à coup ce désir, ben, il s'en va. Il a perdu de sa force parce que c'est un état mental passager. Et tout à coup on se dit, ouais, il y a de l'absence. Et donc percevoir ce mouvement de présence et d'absence de ces états mentaux est là où se situe la méditation, l'enjeu, le lieu de la méditation est au contact de ceci, pas dans un autre lieu. Le vivre complètement, le ressentir, mais d'un espace de stabilité. Donc on perçoit à ce moment, c'est-à-dire, ah voilà, ça a été éprouvé, mais ce même désir, eh bien, il peut être vécu tranquillement, parce qu'on perçoit, oui, le désir, c'est du désir. Et puis, il n'y a pas d'impact particulier, dans le sens qu'il ne nous conditionne pas, il ne nous limite pas, puis on n'est pas en train de perpétuer le fait de vouloir absolument l'expérience, retrouver l'expérience ou la rechercher. Donc, il y a une réalisation importante ici. Et on peut la réaliser uniquement pour soi-même. Elle a un impact que si vous la réalisez pour vous-même. C'est pas en m'entendant ici, vous dire « Ah oui, ok, c'est intéressant. » Non, il faut le vivre. Et la réalisation importante. Et ça, c'est extraordinaire quand on le perçoit pour soi-même. C'est fait vraiment « Ouf !» Moi, je me rappelle du moment où j'ai vu ça la première fois. Je me suis dit « mais c'est vraiment une rupture. Un choc. Hein, une rupture. » Et la réalisation, quelque part la prise de conscience, qu'on appelle des fois des insights, hein, l'éclair de lucidité, c'est que ce n'est pas tant dans l'obtention de l'objet qu'il y a la satisfaction, mais dans l'évanouissement de l'état mental qui est douloureux. La cessation, si vous voulez, ou l'absence, quelque part là, l'évanouissement de cet état mental qui est impermanent. Et qu'à ce moment-là, on sent, mais on est simplement libre de son emprise. C'est ça qui se passe. On est libre de son emprise. Il ne nous contraint plus, il ne nous soumet plus, on n'est plus conditionné. Et ça, ça peut se passer ici et maintenant, au présent. Et ça ne peut se passer qu'au présent. Donc, ce n'est pas théorique. Hein. C'est vraiment pas une belle théorie bouddhiste. Non, non. C'est l'expérience elle-même qui nous libère de l'emprise. Donc, dans le contact, le lieu où il y a cet état mental, c'est le même lieu où on va pouvoir en être libre. Pourquoi ? Parce que c'est la nature de l'esprit, la nature de la conscience qui perçoit, véritablement. Donc, saisie, pas de saisie. C'est ça la différence. Un moment saisie, un moment désaisie. Touk, 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 touk. Un moment le point fermé. Un moment, la main ouverte. Donc tout l'enjeu se situe au contact de l'expérience présente, quelle qu'elle soit. Deuxième, l'aversion. Alors il y en a plusieurs types. Hein. Il y a l'aversion sous la forme, quelque part on dit passive, en sens de peur, dans le sens de quelque part peur, panique, le fait de sentir qu'on est un petit peu rigide, dans le sens de froideur, paralysie. Et puis il y a un autre type qui est très manifeste dans le monde aujourd'hui, qui est l'aversion dans le sens explosif. La haine, la violence, la colère. Et ça, c'est formidable de percevoir qu'on n'a pas besoin d'être soumis en lien avec la version. C'est évident qu'il y a plein de variations. Il y a aussi l'irritation, il y a aussi quelque part le ressentiment pour tous, l'auto-jugement. Il y a tout ça, c'est dans cette catégorie-là. On peut dire ici peut-être que ce sont plus particulièrement des émotions qu'on peut ressentir, la peur aussi. Et ça, c'est la réaction conditionnée à ce que nous trouvons désagréable. C'est comment on se positionne de façon à réagir par rapport à ce qui est désagréable. Vous avez une douleur physique, et puis il y a naturellement, quelque part, la dimension physique, d'accord, de la douleur. La souffrance provient de l'aversion par rapport à cette douleur. Ne pas la réaction conditionnelle à ce que nous trouvons de désagréable. On n'aime pas ressentir la douleur, donc il y a une réaction, il y a un mode d'aversion. Ce qui fait qu'on est à ce moment-là pris dedans, on a une réaction, et cette contraction va peut-être nourrir d'autres types d'impatience. Je ne veux pas sentir ceci, je n'aime pas ça, je veux m'en débarrasser le plus vite possible. Et tout un mode, un fonctionnement, qui fait que naturellement on est pris dedans, irrité à l'égard d'une situation, et puis pris complètement dans un tourbillon de réactivité, c'est la résistance. Alors c'est pas ne pas l'avoir de nouveau, c'est au contraire. Comment c'est l'aversion? Comment est-ce qu'elle se passe? Quel est le mode? Cette réactivité, c'est évident qu'elle est dans le mental, dans l'esprit, c'est pas dans le physique. Donc c'est différent de la douleur primaire qu'on peut ressentir lorsqu'il y a des sensations qui sont douloureuses. Donc là, il y a tout un registre d'aversion qu'il est nécessaire d'explorer, qu'on peut rencontrer et qu'on peut bien sûr découvrir. Là, il y a beaucoup moins de séduction que le désir, on est bien d'accord. Le désir, c'est ouh là, c'est séduisant, ça nous permet de quelque part avoir envie de, et puis on va avoir plein de fantaisies, voilà, affabulation, où est-ce que je serais bien, mais pourquoi voilà. L'aversion, c'est vite fait que j'ai envie de m'en débarrasser. Hein. Donc il y a un côté. Extrêmement déplaisant de ressentir ceci. Mais on le repère plus vite. En tout cas, pour ma part, je le repère plus vite. Parce que, justement, c'est beaucoup moins subtil, dans le sens que c'est douloureux de sentir l'aversion. Dans un registre de retraite, c'est intéressant de percevoir ces mouvements, ces types de manifestation. Vous voyez, on peut aussi avoir tout à coup une projection sur une personne. Voilà. Et puis on aime que cette personne, comme elle marche, comme elle se déplace, puis c'est absolument génial. Oh là là, voilà. Et c'est incroyable, c'est basé sur rien. On n'a jamais parlé de cette personne, on ne la connaît pas, on ne l'a jamais vue, il n'y a absolument rien. Et en même temps, il y a quelque chose qui fait que, on est séduit. Ah ouais. Et c'est pas la réalité, puisque pour une autre personne, ben c'est pas ça, hein, pas du tout. Donc c'est extraordinaire de percevoir quelque part aussi ces mouvements, justement, voilà, combien on peut avoir des projections sur les autres. De les voir, puisqu'on peut se laisser partir. Je peux vous dire, mes premières retraites, je l'ai passé, et à la fin, j'ai dit bonjour à cette personne. Ah, rien que d'entendre la voix. Qu'est-ce que j'ai passé tout ce temps à faire des fabrications mentales. Voilà. Et on appelle ça, aux États-Unis, ça s'appelle romance vipassana. Voilà. Donc ça existe aussi, hein. Je le nomme parce que peut-être que vous avez déjà au bout du deuxième jour. Eu un type de manifestation comme ça, repérez ça. Parce que, une perte de temps. Eh bien, il y a aussi la personne n'est pas du tout désirable, mais au contraire, la personne qui est notre souffre-douleur, on n'aime rien. Non pas la manière dont elle marche, dont elle s'habille, comment elle comporte, c'est très beau, génial. Rien ne va. Et qu'est-ce qu'on fait? On projette justement la version ou le désir, quelque part, sur l'autre. Ça n'a rien à voir avec la personne. C'est en nous-mêmes. Donc c'est extraordinaire de voir combien on rend les choses tellement personnelles et on peut percevoir, c'est tellement éclairant de dire, oh là là, mais projeter sur l'autre ou avoir des jugements par rapport à nous. Et ça, ça ne s'appelle pas du tout Vipassana roman, ça s'appelle Vipassana Vendetta. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des possibilités diverses et variées de passer du temps ici. Hein. Et ben, je peux vous dire que c'est bien de le nommer, et puis déjà de vous... parce qu'on peut vraiment se perdre, et surtout perdre du temps. Mais c'est fou le pouvoir, soit de la séduction ou le pouvoir de la puissance qu'on peut donner à des expériences qui font qu'on a un sentiment d'existence. C'est incroyable, c'est ça qui se passe en réalité. Ça donne un sentiment d'existence, c'est-à-dire qu'on a un repère là. Ah oui, j'existe à travers cette histoire que je me raconte, ces fantasmes, ou au contraire, ces petites vengeances, ces petits récits, ces petits jugements que j'ai, et qui deviennent très personnels, mais qui me donnent quelque part une impression d'exister. Donc le pouvoir de la colère, il peut aussi émerger, et il peut faire émerger un sentiment d'une certaine puissance, dans le sens que, voilà, quand il y a ça, ben, au moins je suis en contrôle. Il y a de la maîtrise. Voilà. Et c'est extraordinaire de percevoir ceci, que ce titre, la version-là, ben, il fait que ça me donne un sentiment de pouvoir vraiment être quelque part dans une disposition de contrôle, de maîtrise, et d'être dans son bon droit. Donc ça me donne quelque part une impression de pouvoir faire face à la situation. Donc ces dimensions-là, ces impressions, ces états mentaux, qu'on peut aussi nommer émotions, c'est important de les explorer, de les vivre. Mais pas dans un état d'esprit de se laisser embarquer par tous les récits, puis celui-ci, puis celle-là, hein, de percevoir, tiens, comment c'est la version? Pas pourquoi, mais comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Quelle est la dimension? Comment est-ce d'être en colère? Sans devoir l'agir, mais le laisser nous traverser. Parce que plus on va pouvoir la vivre d'une façon simple, dans le sens de ne pas l'extérioriser, la plupart des personnes l'extériorisent, aujourd'hui on voit bien ce qui se passe. C'est collectif comme ça peut être individuel, je veux dire, ça c'est quelque part très puissant. Au niveau des répercussions, des conséquences. Mais de se laisser vivre et de se sentir, mais tiens, comment ça ressent? Et de voir que ceci aussi, c'est impermanent. Que la colère, la peur, l'irritation, le jugement, ben, ça passe. Pour autant qu'on puisse vérifier l'attitude qui fait qu'on se sert de la pleine conscience pour prendre quelque part le lien et recevoir et reconnaître ce qui est là. La pleine conscience doit prendre le dessus. Si la pleine conscience ne prend pas le dessus, on est pris dedans. On est pris dans le tourbillon, on est perdu dedans, on est soumis et on est naturellement à ce moment-là, non pas mais la situation dans le sens d'y voir clair, mais on sent la puissance et on est submergé. Donc il y a plein de manières, c'est un processus à nouveau tranquillement, mais c'est un processus, il y a plein de manières de pouvoir quelque part avoir des repères, prendre appui sur la zone d'ancrage est très aidant, plein de moments de ressourcement pour retourner à quelque chose de plus calme. Mais lorsque la version est présente, on n'aime pas la ressentir, donc on s'éloigne. Comment on s'éloigne? Bien, en se racontant des histoires, des récits, on passe son temps à se distraire, par exemple. exemple. Il y a un moment donné où, quelque part, bah, c'est le courage, justement, qu'elle voulait. C'est, je te reconnais, Mara, oui, je te reconnais. Et on reste là et elle est pas à juger, mais elle est à ressentir, vraiment à éprouver. Tout est à éprouver dans le sens de le vivre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas voir, c'est de nouveau vouloir s'en débarrasser. Mais vouloir s'en débarrasser, c'est rajouter de l'aversion à l'aversion. C'est encore une couche de résistance et d'éloignement. Donc l'aversion en réponse de l'aversion, ben, ça la nourrit. C'est extraordinaire de voir que ça la nourrit, ça l'alimente. On met quelque part du feu au feu et on alimente le feu et puis voilà, ça continue, le feu est là et... C'est pas très utile, mais c'est comme ça qu'on s'en fait en réalité. Donc les conditions sont ce qu'elles sont, et rien n'a besoin de nous définir. Vous comprenez ça? Rien n'a besoin de nous définir? De la présence, de la façon de dire, ah ouais, la condition, ah ouais, et t'as mon aversion, ah, c'est simplement de l'aversion. Le méditant, la méditante reconnaît, c'est de l'aversion. Ça émerge, ça part, ça émerge. C'est extraordinaire d'être dans cette situation-ci, pour se donner tout le temps de vivre ceci et qu'on n'a pas besoin d'être défini par ceci. C'est pas ce que je suis. Et ça part, besoin non plus de nous appartenir. C'est à moi. C'est moi, je suis comme ça. Une personne aversive. Non, et j'oublie toutes les manières que je peux être, où j'ai beaucoup de générosité, de tendresse, de qualité. Donc, le lutter contre, c'est rajouter une couche d'aversion. Donc, plutôt que lutter contre, c'est ici céder de bienveillance, céder de compassion, céder dans le sens de s'accompagner, de se prendre par la main. Ça, c'est une réponse et non pas une réactivité. Et lorsqu'on a cette qualité qui peut nous aider là, qui va accompagner la pleine conscience, une pleine conscience bienveillante, bah là on peut se dire, à un moment donné, ça c'est l'autre aspect qui dit, ah mais oui, mais en fait ça fait mal, l'aversion ça fait mal, c'est douloureux, plutôt que ça ne devrait pas être, et puis je me juge, et je me critique, parce que c'est là. C'est tout simplement, ça fait mal, c'est une condition qui fait mal. Donc, pourquoi nourrir la douleur? Donc, vous voyez, tout ça c'est un processus de non-saisie. Véritablement, cette qualité de pleine conscience, elle est dépourvue, et peut-être que Charles l'a déjà dit, de délire attachement, d'aversion et de confusion. Donc, dans sa nature, elle est claire, tout simplement ce qui est là, sans adhérence, sans saisie. Ben, c'est super, parce que je vais laisser la torpeur et la léthargie, ainsi que l'agitation, pour un autre jour. Voilà. Ça tombe extrêmement bien. Et puis, je vais parler du doute. Il y a du doute, le cinquième. Le doute est tellement important dans le sens de ne pas avoir de certitude. C'est important de ne pas avoir de certitude, de pouvoir laisser cette qualité d'exploration. Donc il y a un doute qui est absolument bénéfique, dans le sens du questionnement, dans le sens de laisser quelque part l'émerveillement, la nouveauté, de ne pas vraiment quelque part savoir à l'avance. Et souvent c'est là qu'on se fait piéger, parce qu'on se piège dans le sens de « Ah oh, mais je sais déjà, mon Dieu ». Ça fait 10 000 fois et 10 000 moments que je ressens cette respiration. Mais à quoi bon de sentir ça? Voilà. Et de vivre cette expérience comme si on n'avait jamais, jamais, jamais vécu précédemment. Vous vous rendez compte? Waouh! Donc là, il y a une investigation. Il y a quelque chose de l'ordre de la fraîcheur qui est quelque part, waouh! C'est nouveau. Et c'est la reconnaissance de cette dimension qu'on appelle ici investigation, curiosité, intérêt, vraiment de rester au contact. Ça demande une envie d'y voir clair. C'est c'est nourri de soins pour reconnaître l'expérience présente. Maintenant, il y a un autre doute qui est beaucoup plus handicapant, on va dire, qu'on nomme ici dans ce contexte le doute sceptique. Le doute qui tourne en rond. Et ça, c'est un doute qui, naturellement, si on ne le repère pas, eh bien, il va nous conditionner et, comme l'aversion ou comme le désir, eh bien, il fait que on est pris dans le voile, ça perturbe. Donc, ce doute qui fait entrave, c'est décrit comme un état d'esprit qui vacille. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette dimension d'indécision. Hein? C'est pas savoir, quelque part, choisir des alternatives. Et puis, quelque part, ça tourne en rond. Et on peut avoir ceci dans notre vie. Hein? Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut passer comme temps à ça? Moi, c'est extraordinaire combien le doute a pu, quelque part, empêcher un engagement, par exemple. Vous voyez? C'est incroyable. C'est aller, venir, voilà, sur le pas de la porte. Ni reculer, ni avancer. C'est vraiment, voilà, pas par l'avant, pas un. Et puis on sent bien, quelque part, que ça mène à rien. Que vraiment, on est là, waouh. On se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? Sans reconnaître qu'en fait, on est habité par le doute. Ce doute sceptique, qui est un pouvoir de nuisance incroyable. C'est quelque part ici qu'on va repérer la confusion. La confusion va certainement être reliée à ce doute sceptique. Une grande indécision qui nous met dans un état d'impuissance et qui va générer un figement, une paralysie, un sens de Et là, naturellement, il y a des pensées aussi. Et les pensées, on doit les repérer. Ces pensées sont des repères. C'est des signes qui ne trompent pas. Quand on se dit encore et encore, en quoi le fait d'être avec les sensations corporelles, par exemple, va aider à la souffrance dans ce monde. Et me dire, en quoi est-ce que d'être avec ma respiration, là, voilà, ça va aider à la souffrance dans ce monde. Hein? Moi, j'ai eu souvent cette question. Mais c'est extraordinaire combien l'esprit peut être malin et puis vous leurrer et puis vous dire, mais voilà, ou cette pratique, elle est complètement inutile, c'est inefficace, j'ai passé toute la journée là, voilà, à vraiment me torturer avec mes états trop difficiles ou mes douleurs. Et c'est important de reconnaître les schémas qui vont accompagner le doute, parce que le doute est très difficile à repérer. C'est dans sa nature. Il voit la nature du doute est très difficile. On croit quelque part, il se fait passer pour la sagesse. Vous voyez, ces phrases, c'est en quoi ça va aider à la souffrance dans le monde. C'est, oh, mais elle est vraiment sage, cette phrase. Et puis, vous pouvez. Comme je dis toujours, donnez rendez-vous au doute après la retraite. Vous pourrez tout à fait vous poser des questions, mais pendant la retraite, c'est vraiment handicapant. Donc le choix du type de pratique, du moment opportun, ou des enseignants, ou du lieu, ou, voilà, on peut douter de tout. On remet en cause voilà, l'horaire. Ouais, non mais moi alors, je ferai un autre horaire. Et puis voilà. On veut tout changer, vous voyez, les conditions extérieures, les conditions intérieures. C'est extraordinaire quand on est là en train de tourner le monde. Ouais, non, mais ça, ouais, puis ça, voilà. Et puis, c'est extraordinaire combien les pensées ici peuvent être intenses. Et les pensées intenses, bah, ça nous permet de repérer je devrais pas. Voilà, je suis bien dans les pensées. Et puis, souvent, on ne sait pas ce qu'on pense. Parce qu'on est tellement perdu dans le doute qu'on ne sait même pas à quoi on pense, ce qu'on pense, ce qui se dit. Et quoi penser, en fait, de cette situation, hein? Eh bien, je doute. Voilà la finalité. Et j'arrive tourne en rond parce que c'est là, puis que c'est wow. Donc c'est très prégnant. Donc vérifie au moyen d'attention ce qui se passe. Et une des manières de vraiment éclairer ça, c'est justement de percevoir le contenu des pensées. Non, pas simplement, ah oui, il y a une pensée, puis hop, ok, on revient à la sensation physique, on revient là. Non, le contenu de la pensée, c'est vraiment utile ici, de quelque part, le repérer. Manque de vision. Et là, augmentez votre qualité de, quelque part, discernement, parce que le discernement, c'est exactement l'opposé du doute, de la confusion. Confusion et sagesse sont à l'opposé. Et à ce moment-là, on commence à y voir plus clair. Maintenant, quand il y a aussi du doute, il se peut très bien qu'il y ait quelque chose de difficile dessous. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'est pas prêt pour rencontrer une émotion qui pointe le bout de son nez, là. On le sent, hein, intuitivement, mais voilà, résistance, résistance. Donc il y a quelque chose qui peut être caché, peut-être la peur, souvent la peur. Ouais. Et derrière l'apparence là, du doute, c'est quel intérêt de faire ceci, quelle justification, toutes les justifications qu'on pourra avoir pour ne pas être là, et pour ne pas rencontrer quelque part quelque chose qui peut être un tout petit peu plus émotionnel, affectif. Et donc, ça permet simplement de laisser le temps au temps pour ne pas être perdu et donner la capacité de pouvoir vivre ce déroulement. Et à un moment donné, ben, voilà, les choses seront mûres. C'est comme le fruit qui est mûr, ben, il tombe de l'arbre. Et le fruit qui est mûr, ben, c'est quelque part sentir que, ah oui, il y a une possibilité là de pouvoir avoir cette plus grande capacité d'explorer. Il y a peut-être dessous. Donc il y a là des effets. Un effet secondaire du doute, c'est l'ennui. Vous êtes ennuyé aujourd'hui? Un petit peu? Beaucoup? Voilà, c'est un effet secondaire du doute. Quand l'ennui est là, eh bien, c'est qu'on n'est pas en contact, donc on s'ennuie, donc on cherche une autre expérience, on cherche à se distraire. Mais dessous, il y a quelque chose de difficile, mais on n'est pas prêt. Donc voilà, il y a respecter les résistances. Et l'ennui est très intéressant. Comment c'est l'ennui? Qu'est-ce qui se passe véritablement au contact de l'ennui? Waouh, j'aimerais autre chose. J'aimerais être ailleurs. Je m'ennuie, il ne se passe rien. C'est qu'on n'est pas au contact de l'expérience présente. Donc là, le déroulement fait qu'il y a de l'ennui, il y a du doute, voilà, on tourne en rond, les pensées vont au coup, voilà, tant de temps. Puis après, on est là, puis on s'ennuie, on laisse passer les pensées. Et puis, quelque part, cet ennui, il va nous amener tout droit vers la torpeur, parce qu'on est tellement épuisé d'avoir pensé tellement, d'essayer de chercher à être ailleurs et autres. Et la torpeur prend le dessus, l'esprit est complètement terne, morne. Et donc là, le corps est lourd et il n'y a plus d'intérêt. Un peu envie. Et donc là, il y a l'aversion. Vous voyez qu'ils sont tous reliés. Il y a l'aversion, voilà, l'aversion qui prend le dessus en rapport au doute. Donc l'esprit du doute peut aussi, quelque part, emmener la personne, le participant du temps, à se retirer des difficultés, ne pas vouloir faire face aux difficultés. Aller en retrait. Et à ce moment-là, il y a un effondrement en intérieur. C'est wow. Mais c'est pas trop grave, hein, torpeur, voilà tout. Puis on se réveille, puis tout à coup, voilà, il y a de nouveau la disponibilité, il y a de la fraîcheur, quelque chose se passe. C'est un processus dynamique. C'est jamais pour toujours. Donc j'ai parlé du doute qui peut être extérieur, mais un des doutes les plus handicapants, c'est le doute de soi. Douter de sa capacité d'y arriver, de pouvoir quelque part simplement s'accompagner de pleine conscience. C'est le plus problématique. Donc le percevoir, c'est ok, je ne suis pas capable, c'est des phrases, c'est des mots, ça ça n'a rien de définitif. Donc cette perturbation-là, la cinquième, c'est la plus quelque part dangereuse dans le sens qu'elle peut nous mettre un frein. Vraiment un frein. On dit que c'est la plus dangereuse de toutes. L'aversion, bah forcément, bah voilà, on passe et puis... elle peut mettre un très gros frein à la pratique, nous faire arrêter, et c'est dommage. Donc c'est pour ça que reconnaître le doute et puis donner rendez-vous au doute plus tard, c'est très bien. Il y a des pensées dans cet état qui est judicieux de reconnaître. C'est souvent des pensées obsédantes, je veux partir, je veux plus, voilà. Là, il n'y a même pas de question. Donc 5 états mentaux, il y en a 2 que je laisse de côté, volontairement. Et pour lesquels on doit garder un œil ouvert. Voilà, tout est impermanent, mais garder un œil ouvert, c'est-à-dire être attentif, être conscient de leur émergence et de leur évanouissement. Émergence, évanouissement. Le remède pour chacun de ces troubles, chacun, c'est extraordinaire, c'est là que c'est absolument super, c'est la pleine conscience. Donc voilà, comment avoir plus de pleine conscience ? Bon, en étant plus pleinement conscient. C'est la pleine conscience qui devrait avoir la conscience. Donc, quelque part, dans ce contexte, ralentir, c'est tout à fait judicieux parce qu'on peut y voir plus clair. Si on est là, on est un petit peu superflu. Donc, vraiment, aller au contact, percevoir ce qui se passe, perdu dedans, sans être quelque part dans un contexte de soumission, identifier et l'instant d'après, on se réveille, on voit clair. On découvre ce qui se passe. C'est vraiment la clé dans ce travail, plutôt que d'essayer de s'éloigner. On peut ainsi remarquer l'interaction entre la souffrance et la liberté. Au même endroit. C'est dingue. Au même endroit. Il y a de la souffrance et la liberté. Qu'est-ce qui a changé? C'est dit, non, c'est si. Le Bouddha a dit que c'est incroyable. C'est dans, quelque part, le frétillement d'une paupière qu'il y a la souffrance, c'est-à-dire qui provient de la saisie, et la non-saisie, la liberté. Le battement d'une paupière. Vous vous rendez compte? C'est tellement proche. Hein? Donc, un Bénet disait, plus la difficulté est grande, plus la prise de conscience est grande. Vous voyez qu'il n'y a rien qui, quelque part, nous empêche de pouvoir trouver la liberté. C'est réjouissant de pouvoir pratiquer dans ces circonstances. Je vais terminer avec un poème, comme je le fais souvent. Et ce poème vient de Dana Ford et il s'intitule « Laisse être ». Laisse tes idées sur comment la vie aurait dû se dérouler. L'attachement au plan, aux rêves ou aux attentes. Laisse-les tous s'en aller. Garde tes forces pour nager avec le courant. Le choix de te battre avec ce qui est ici, devant toi, maintenant, ne provoquera que lutte, peur et tentative désespérée de fuir cette énergie à laquelle tu aspires tant. Laisse être. Laisse tout être et flotte avec cette grâce qui submerge tes jours. Que tu la reçoives avec douceur ou que tu la combattes comme un envahisseur, crois-moi sur parole. L'esprit ne trouvera peut-être jamais les explications qu'il cherche, mais tu avanceras tout de même. Laisse être, et la crête des vagues te portera vers des rivages inconnus, au-delà de tes destinations et rêves les plus fous. Laisse tout être et trouve un lieu de repos et de paix, et d'une transformation certaine.